De manière immédiate, la guerre a eu des effets macroéconomiques directs pour l'ensemble du monde, mais plus particulièrement pour la région Moyen-Orient-Méditerranée qui nous borde. Tout d'abord, l'augmentation considérable des prix de l'énergie et la question de la fin des livraisons du gaz russe à l'Europe. Et du coup, de manière temporaire, je crois, les producteurs de pétrole et de gaz de l'Algérie à l'Arabie Saoudite à l'Irak sont plutôt tout sourire. L'autre aspect, c'est que même s'il y a un peu de blé ukrainien qui passe par le Danube désormais, néanmoins la masse des livraisons a été interrompue. On espère que tout n'est pas en train de pourrir. Et donc des pays comme l'Égypte, 103 ou 104 millions d'habitants, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Turquie dans une moindre mesure, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, très gros importateurs de blé puisque les populations ont connu des croissances non maîtrisées. Tout cela a eu pour conséquence qu'il y a aujourd'hui de très grandes inquiétudes sur l'alimentation. On craint pour l'automne des émeutes du pain, hein, comme il y en a eu souvent en Égypte et dans d'autres pays. Et je vous rappelle que l'année 2010, à la veille des 10 printemps arabes, c'est l'augmentation simultanée des prix des hydrocarbures, du butagaz et du blé, parce qu'il y a eu de très gros incendies, il risque d'y en avoir aussi cet été, du reste, ça a commencé, dans les plaines céréalières d'Ukraine, de Russie, d'Australie, etc., qui avaient déclenché les mouvements qui avaient fait tomber la plupart des régimes à l'époque.
Est-ce que l'on peut dire que les pays du Golfe et du Moyen-Orient tirent profit d'un certain isolement de la Russie sur la scène internationale?
Ce n'est pas vraiment un isolement parce que si vous regardez bien les votes aux Nations Unies, un certain nombre d'États africains et asiatiques qui étaient plutôt en accord avec les Européens dans un certain nombre de votes sur les questions de droits de l'homme, etc., se sont abstenus dans la guerre russo-ukrainienne, se disant finalement qu'ils se débrouillent et nous, nous irons vers là où sont nos intérêts. Et ça, je l'ai senti dans les voyages récents que j'ai pu faire dans la région. Une volonté de maintenir à distance Russie d'un côté et Ukraine et Europe derrière de l'autre, de façon à essayer de bénéficier du maximum de créneaux et par exemple à ne pas s'empêcher d'acheter du gaz ou du pétrole russe si on peut avoir moins cher.
Dans ce conflit russo-ukrainien, un pays semble tirer son épingle du jeu, c'est la Turquie. Est-ce que l'on peut dire que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est l'un des grands gagnants de cette séquence géopolitique?
Bah, il est très pragmatique et versatile. Son objectif est d'être réélu. Donc, vous avez vu, par exemple, quand il a été question d'élargir l'OTAN à la Suède et à la Finlande, il a fait une sorte de chantage en leur demandant d'interdire tous les partis kurdes réfugiés dans ces deux pays qu'il soupçonnait d'être pro-PKK, le parti travailleur du Kurdistan. Donc, il fait une sorte de bras de fer, comme il a fait avec les États-Unis en achetant des S-400, des missiles sol-air russes, tout en étant membre de l'OTAN. De même, ils vendent des drones aux Ukrainiens. Donc l'Ukraine est d'une certaine manière présente au Moyen-Orient.